يا إله الكون قد أسلمت لك يا إله
comprendre l'islam une émission conçue et présentée par Saïd Boutelfa et Kamel Chekat. Réalisé par Youssef Najimi.
Amis auditeurs, bonjour. Comme convenu, une nouvelle série que nous entreprenons avec Kamel Chekat. Donc cette fois, nous allons parler toujours d'islam, mais pour un rendez-vous hebdomadaire intitulé « Comprendre l'islam ». Donc, c'est Kamel, bonjour.
Bonjour.
Pour la première de la série, donc pour inaugurer cette série qui sera diffusée, comme je viens de le dire, tous les vendredis, nous avons choisi aujourd'hui de parler de Chouel, du mois de Chouel et des 6 jours de jeûne de Chouel. Donc le mois de Chouel, pour plus de précision, c'est le mois qui suit le mois de Ramadan.
Absolument.
Donc les 6 jours de Chouel.
Oui, il s'agit d'un jeûne surérogatoire. Muslim rapporte d'après Abu Ayyoub ibn al-Ansari radiyallahu anhu qu'il a dit « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam « Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyam ad-dahr » Celui qui jeûne le mois de Ramadan puis le fait suivre d'un jeûne de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Si nous partons du principe que al-hasanatu bi'ashrati amthaliha,
donc est rétribué 10 fois.
10 fois,
d'accord.
Oui. Ceci veut dire que 36 jours vont vous donner l'équivalent de 360 jours, ce qui nous fait presque une année solaire, puisqu'il y a une différence de 11 jours entre une année lunaire et solaire. Donc nous sommes dans la moyenne d'une année.
Donc, comme il est dit, sama dahar, ce qui signifie...
Le mot dahr signifie le temps, il peut signifier aussi l'éternité, mais dans,
dans ce cas-là,
contexte,
c'est l'année. Très bien. Oui. Donc il y a aussi peut-être une petite précision à apporter, si Kamel, concernant encore une fois le début de ce jeûne. Il semblerait qu'on ne doit pas jeûner ni le jour du l'iftar, le premier jour,
oui.
Donc c'est à partir, je crois, du deuxième.
Absolument, parce que les jours de fête, comme c'est le cas pour la fête de la rupture du jeûne,
voilà, qui est Eid al-Fitr,
ou bien la fête du sacrifice, qui est Eid al-Adha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yawm al-Fitri wa yawm al-Nahr Eiduna ahlul Islam » entre autres, « Wa hiya ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah » Ce sont donc des jours de nourriture, de breuvage et d'évocation de Dieu. Il est donc interdit de jeûner pendant ces jours.
D'accord. Donc, ils ont une vocation doctrinale. Donc.
Oui, absolument. On commence donc à jeûner les 6 jours de Chouel à partir du deuxième jour du mois de Chouel, c'est-à-dire juste au lendemain de l'Aïd.
Alors, il y a aussi peut-être une question qui nous interpelle, c'est Kamel, par rapport à la... Bon, là, d'abord, la durée légale de ce jeûne.
Oui.
Et est-ce qu'on peut le fractionner au cours du mois de Chouel, par exemple?
Alors, pour la durée légale, c'est tout le mois de Chouel.
D'accord.
29 ou 30 jours, selon
le
calendrier. Vous pouvez les jeûner consécutivement, tout comme vous pouvez les fractionner. Mm-hmm. Le plus important est que ce jeûne reste compris dans le mois de Chouel.
Donc il y a aussi une autre question, il est recommandé, enfin il est à éviter de jeûner le samedi. Pour quelles raisons faut-il éviter précisément ce jour?
Pour ce qui est du jeûne du samedi, il y a un hadith rapporté par bon nombre de transmetteurs, parmi lesquels Tirmidhi et autres, d'après Samma binti Busr radiallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qu'al La tasoumu as-sabta illa fi ma ftourida alaykoum.
Donc ne jeûner le samedi que lorsque c'est un jeûne obligatoire.
Et oui, et on entend par jeûne obligatoire
Ramadan.
Le jeûne de Ramadan uniquement.
Voilà.
Parce que sachez que dans le droit musulman, nous avons différents types de jeûnes obligatoires. Il y a le jeûne compensatoire, il y a le jeûne votif, siyamun nadr. Par exemple, vous dites, si Dieu fait que telle ou telle chose se réalise, je fais vœu à Dieu de jeûner 10 jours. Donc ce jeûne vous deviendra obligatoire.
Donc c'est un vœu que l'on fait.
Et il y a le siyam al-kafara, le jeûne d'expiation ou expiatoire.
Quand on récupère des jours...
Quand vous avez violé un serment, quand vous avez manqué à une parole, etc. Donc ça, c'est aussi un jeûne obligatoire. Donc le jeûne obligatoire dont il est question dans ce hadith, c'est exclusivement le jeûne de Ramadan. Pour revenir donc au sujet, « La tasoumu sabta illa fi mafturida alaykum » Ne jeûnez le samedi que lorsqu'il s'agit d'un jeûne obligatoire. « Fa in lam yajid ahadukum illa liha'a inab » Si vous ne trouvez que des écorces de vigne, même pas la grappe.
Des écorces de raisin.
« Aw'ouda shajaratin fal yamdirha » Ou bien un bout de bois qui le mâche. Ce hadith a été rejeté par l'imam Malik. Il disait « Hada hadithun himsi »« Hadith makdoub » C'est un apocryphe. Beaucoup l'ont rejeté aussi parce que dans sa transmission, il y avait quelques imperfections. « Allahu ba'duhum bittirabin fis sanad » Quoique, après des études très poussées, il s'est avéré que c'est un hadith authentique.
D'accord.
La transmission a été revérifiée et le hadith a bel et bien été prononcé par le prophète. Bon, ce hadith nous interdit de jeûner le samedi parce que c'est un jour qui est vénéré par les juifs.
D'accord. Donc pour se différencier,
pour
tout
nous
simplement.
Distinguer un peu des juifs, tout simplement. Voilà. Face à ce hadith, vous avez un autre hadith rapporté, lui, par Bukhari, d'après Juwayriya. « Qalat, dakhala alayya nabi sallallahu alayhi wa sallam » Yawma Jumu'atin, le prophète alayhi salam est entré chez elle un vendredi, elle était à jeun. Et il lui a dit, Somti Ams, as-tu jeûné hier en parlant du jeudi? Elle a dit non. As-tu l'intention de jeûner demain?
Donc vendredi.
Tasomina Radan. Non, en parlant du samedi, puisqu'on était vendredi.
D'accord.
Qala idan fa aftiri. Alors rampe ton jeûne. Alors, du premier hadith, la tasoumu sabta illa fi maftourida alaykum, il est clair que nous n'avons pas le droit de jeûner samedi, mais dans le deuxième, par déduction, on comprend qu'on a le droit de jeûner samedi à condition de jeûner avec lui le vendredi.
D'accord.
Nous avons un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yasoumanna ahadukum yawm al-jumu'ah illa an yasouma yawman qablahu ou yawman ba'dahu. C'est-à-dire que même le vendredi, nous n'avons pas le droit
de jeûner
spécialement le vendredi.
D'accord.
C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit, donc, de ce fait, de faire des prières nocturnes dédiées spécialement à ce jour, tout comme nous n'avons pas le droit de jeûner ce jour qui est jour de fête. Et c'est à partir de là que le prophète alayhi salam a dit, ne jeûnez le vendredi que si vous jeûnez avec lui. Un jour avant ou un jour après.
Donc jeudi ou samedi.
Jeudi ou samedi.
D'accord.
Ce qui rejoint le sens du hadith que nous avons cité tout à l'heure, qui a été rapporté par Bukhari d'après Juwayriya. Alors là, nous avons deux hadiths. Un hadith qui vous dit, vous n'avez pas le droit de jeûner le samedi. Et un autre hadith où, par déduction, vous comprenez qu'on peut plus ou moins le jeûner. Nous avons en apparence une contradiction.
Mais qui n'en est pas une. Donc c'est Kamel, précisément concernant, encore une fois, ce cas d'espèce. Dans le cas où les deux hadiths semblent être en contradiction, est-ce qu'on fait jouer la règle préférentielle, par exemple?
En fait, tout dépend du degré de contradiction. Parce que dans la majorité des cas, les contradictions ne sont que des contradictions d'apparence. Mm-hmm. Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez deux hadiths contradictoires, vous avez trois démarches. Alors la première, c'est « maslakun nasr », c'est-à-dire qu'on va essayer de placer ces hadiths. On va essayer de les placer chronologiquement.
D'accord.
Et c'est le dernier hadith qui abroge le plus ancien.
Qui fait foi. Bien
oui,
bien,
c'est la dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui annule les précédents.
C'est ça,
en plus
c'est logique, parce qu'il y a une chronologie qu'il faut respecter.
Mais là, il faut qu'il y ait vraiment des indices qui vous permettent de faire ce type de travail. On a un petit exemple. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa a dit Je vous avais interdit la visite des tombes. Maintenant, visitez vos morts, parce que cela ne peut que vous rappeler l'au-delà. Donc, au début, le paganisme était tel qu'il fallait interdire.
Oui, il y avait le culte des morts,
il y avait aussi
qui était très, très développé.
Oui, absolument.
Depuis l'Antiquité, jusqu'aux périodes les plus récentes.
Oui, surtout, il y avait beaucoup de fétichisme qui entourait les morts. Et puis par la suite, quand les gens ont acquis une certaine maturité spirituelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé la chose. Dans d'autres cas, nous pouvons aussi déterminer quel est le hadith qui a été dit en premier, quel est celui qui a été dit en dernier lieu. Par exemple, si vous prenez un hadith rapporté par Ahmad al-Tirmidhi, d'après Shaddad ibn Aws, qui dit Inna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ata ala rajulin bil baqir. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est passé par un homme dans la région du Baqir. Le Baqir, c'est le cimetière de Médine. L'homme en question était en train de se faire une saignée. Kana yahtajim. Faqala aftara al-hajimu al-mahjum. On rompu le jeûne, autant celui à qui on pratiquait la saignée et celui qui le saignait.
Oui,
oui, bien sûr. Donc, les deux ont rompu le jeûne. Le premier parce qu'il s'est fait faire une saignée, le deuxième beaucoup plus par mesure punitive. Un autre hadith rapporté par Bukhari d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit que le prophète alayhi salatu salam s'est fait faire une saignée alors qu'il était à jeûne. Donc pendant une période d'abstinence, et il s'est fait aussi faire une saignée alors qu'il était en période de sacralisation. Comment faire la part des choses? Un troisième hadith rapporté par Daraqutni, d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui était le serviteur du prophète alayhi salatu salam, pendant 10 ans. Anas ibn Malik étant lui-même une source de savoir intarissable parce qu'il ne quittait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une semaine. Oui. Tout comme Abu Huraira est celui qui a qui fait le plus de rapports concernant
disons
le
il
prophète.
Il était à la source de la révélation.
Anas ibn Malik l'était tout autant. Donc Anas ibn Malik nous dit qu'au tout début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment interdit la saignée. Il est passé une fois par Ja'far ibn Abi Talib qui se faisait faire une saignée. Il a dit « Aftara hadan », les deux ont rompu le jeûne. Mais par la suite, il l'a toléré, il le faisait lui-même. Et Daraqutni rapporte que Anas ibn Malik se faisait faire des saignées alors qu'il était à jeûne et en période de sacralisation. « Fuqt l'ihram ». Nous pouvons donc, à partir de ces trois rapports, de ces trois récits, de ces trois narrations, min al-riwayat al-thalat, nous pouvons placer les trois hadiths dans un ordre chronologique qui nous montre qu'au début, l'hijama était interdite, mais qu'elle a été tolérée par la suite.
Donc on est toujours dans ce respect donc, là, de la chronologie des hadiths et de la révélation.
Donc là, les savants généralement, quand ils ont un litige, quand ils ont une petite contradiction que présentent deux hadiths, la première chose qu'ils vont faire, ils vont essayer de savoir s'il y a moyen de placer ces deux hadiths sur une échelle de temps qui va déterminer lequel des deux hadiths a été cité en dernier lieu. Auquel cas, il va abroger tout ce qui a été cité précédemment. Mais concernant nos deux hadiths, concernant Siyam Sabt, et l'autre hadith de Juwayriya, nous n'avons aucune indication qui puisse nous permettre de faire ce travail. Donc, maslakun nasr, la voie de l'abrogation est carrément à exclure dans ce cas de figure.
Alors là, si vous permettez, si Kamel, une petite digression, mais quand même d'importance, par rapport à tous ces débats d'école juridiques auxquels on assiste actuellement, est-ce que traditionnellement on tient compte, enfin ce qui se fait actuellement, rigoureusement de la chronologie des hadiths ou là, est-ce que souvent...
Oui, non, disons, mais de tout temps ça a été pris en considération, d'accord. De tout temps. Les anciens n'ont...
Je ne parle pas des anciens, je parle des contemporains.
Même actuellement, d'accord. Oui, même actuellement. Nous nous basons sur les travaux des anciens, de toute d'accord. manière. Il n'y a du nouveau que là où il y a matière à faire valoir l'ijtihad, l'effort intellectuel.
Donc ce qui est tout. Fixé, clair et...
Ce qui est clair va le rester.
Comment on dit, bidon de robal,
oui,
ça sert à rien d'en parler.
Il n'y a pas lieu d'y revenir. La deuxième possibilité pour dissiper un litige ou une contradiction, on appelle ça « maslakut tarjih ». C'est-à-dire qu'on va faire jouer des règles de préférence. Dans ce cas, parmi les règles, par exemple, nahyu muqaddamun ala al-amr, l'interdit prime l'impératif simple. Quand le prophète vous dit la taf'alu shay'an, ne faites pas telle chose, et que dans un autre hadith, il vous dit faites-la, c'est ne faites pas qui prime.
Là, tasawwum sabt, contexte à respecter.
Oui, la tasawwum sabt, là on agit par excès. La tasawwum sabt va prendre le dessus sur Asumti ams, atasumina ghadan, etc. Il y a une autre règle qui vous dit, par exemple, le hadith ou le maqru' muqaddamun ala le hadith il mafhum. Le hadith qu'on comprend d'entrée de jeu va avoir la primauté sur un hadith qu'on comprend par déduction. L'atasumu sept est un peu plus clair. Mais quand le prophète dit à Jouairia, as-tu jeûné hier en parlant de jeudi? Elle dit non. As-tu l'intention de jeûner demain en parlant de samedi? Elle dit non, puisque c'était un vendredi. Voilà. Donc on comprend qu'on a le droit de jeûner le samedi à condition de jeûner un jour avant ou un jour après, tout comme c'est le cas
qui
pour vendredi.
Qui précède ou qui succède?
Qui succède, oui. Mais là aussi, on ne peut pas faire valoir une règle de préférence.
Alors,
parce que...
Alors, Kamel, une petite précision, pourquoi deux jours? Pour pas qu'on reste dans la symbolique du jour. Des autres traditions religieuses.
Dans la symbolique
Donc,
du samedi.
Rajoute, voilà, on rajoute un jour pour qu'on sorte de la symbolique du Shabbat ou d'autres traditions
religieuses. Tout simplement. Mais même là, on ne peut pas faire valoir des règles de préférence parce que nous ne faisons valoir des règles de préférence que lorsque la contradiction est flagrante. Or, ces deux hadiths peuvent être complémentaires. Et là, les savants théologiens vont suivre la méthode la plus suivie. On appelle ça maslakul jama. On compile les deux hadiths et on sort avec un avis
consensuel.
Oui, najma'u bayna al-hadithayn. Wal jama'u awla bi ittifaqi ahli al-'ilm. C'est-à-dire que c'est là la première chose que vont faire des juristes. Après justement avoir déterminé s'il n'y a pas manière de placer les hadiths dans une échelle chronologique. Quand on compile les deux hadiths, on va savoir qu'il n'est pas souhaité ou souhaitable de jeûner le samedi parce que c'est un jour vénéré par les juifs, mais qu'il y a possibilité, comme le permet la tradition, de jeûner un jour avant ou un jour après.
Voilà, d'y ajouter un jour supplémentaire.
Ceci veut dire aussi, comme le disent la majorité des savants, on peut aussi jeûner un samedi quand c'est un jeûne d'habitude. Par exemple, vous vous dites, moi je travaille, à partir d'aujourd'hui, je jeûnerai tous les débuts de mois. Alors, si votre intention a été de jeûner le début du mois...
Donc, si ça tombe un samedi...
Si ça tombe un samedi, vous en avez parfaitement le droit. D'accord. Qui sont de cet avis? Parce qu'actuellement, nous avons des avis qui nous viennent du Hijaz...
C'est dont
nous disent,
je faisais allusion tout à
qui
l'heure
quand
on parlait
la yajuz,
du respect de la chronologie et de l'esprit de la lettre.
Oui.
Aussi, de l'esprit... des hadiths.
Absolument. Voilà. Donc, nous avons des gens qui nous apportent des avis qui disent bid'at, l'attention au sept, et même pour les gens qui jeûnent consécutivement les jours de Shawwal, non, ne jeûnez pas samedi, ça a été déconseillé par le prophète. Certes, mais quand on jeûne expressément Ashura ou Muharram ou Ayyam Shawwal, et qu'on a de surcroît fait précéder le samedi d'un jour, ou si l'on l'en a fait suivre samedi d'un autre jour, on a parfaitement le droit de le jeûner. Qui sont de cet avis? L'aïm al-arba'a, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, l'imam Ahmad. Je citerai en plus Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn
Daqiq al-Ayd.
Que demander plus? Donc on a parfaitement le droit de jeûner un samedi qui se trouverait au milieu d'autres jours de ces fameux six jours de Shawwal.
Alors maintenant, une autre question aussi pratique par rapport au commun des croyants, enfin des musulmans, quand il doit, par exemple, connaître ces détails qui sont assez quand même, être versés dans la jurisprudence et tout ce qui s'ensuit, à qui il doit s'adresser, à son imam,
on s'adresse généralement
un avis autorisé.
Vous avez le conseil savant d'Alger, le Mujlis al-Ilm li Wilayat al-Jazair. Vous avez pas mal d'organismes, mais bon, adressez-vous à votre imam à condition que ce soit un imam normal. Pas de ceux qui
essayent son sujet.
Oui, pas de ceux qui veulent à tout prix se distinguer en se démarquant des gens Khalif Tu'araf, tout simplement.
Ouais. Eh bien voilà, chers amis auditeurs, on a fait un peu le tour de cette question du jeûne de Shawwal. Donc c'est les six jours qui précèdent Siyam al-Ramadan. Vous espérant la semaine prochaine, nous vous remercions et nous remercions aussi notre réalisateur Youssef Nejimi. Bonne journée.
Thank you.